Merci pour la présentation tout à l'heure et merci de m'avoir invité dans ce lieu magnifique de création, recherche, en lien aussi avec la profession, des termes que l'on conjugue dans des centres comme celui-ci et également dans des centres comme ceux attachés à l'université. À un certain moment, enfin, ça se rejoint. Merci aussi pour me donner l'occasion de voir cette très très belle exposition et d'y découvrir des œuvres que je ne connaissais pas. Alors, je ne vais pas, dans une introduction, fixer le cadre épistémologique qui fonde mon propos, ou dans lequel s'inscrit mon propos, et notamment le parcours d'interprétation que je propose de suivre, mais je suis à votre disposition dans le cadre d'un échange pour revenir là-dessus. Il y a deux termes clés qui définissent mon approche, c'est le terme plastique et le terme poétique. Le terme poétique est emprunté bien sûr à Paul Valéry dans la distinction qu'il établit avec la poétique et plus largement dans ce que René Passeron et quelques autres, en emboîtant le pas à René Passeron, distinguent par rapport à l'esthétique. Une distinction qui peut-être ne tient plus aujourd'hui d'ailleurs. Je voudrais partir d'une citation d'Hubert d'Amiche, qui se prête à la peinture, aux drippings de Pollock, à l'étude de ses créations. Il remarque un principe d'organisation des surfaces tout à fait singulier, qu'il déclare comme étant caractéristique de ce qu'il appelle une dialectique de l'invention. Et vous allez voir, je commence par le terme invention, et je conclurai par le même terme invention à propos du cinéma d'animation. Si j'emprunte cette formule à Hubert d'Amiche, c'est parce qu'il l'a fait, il la porte très précisément sur la question du dessin, en signalant une destruction progressive du dessin, il dit « le trait étant moins tracé que traîné ». Le trait étant moins tracé que traîné. La dialectique de l'invention, à partir de là, intègre, et ça vient d'être dit dans la présentation aussi, la rupture avec les normes, les conventions, qui sont attachées à la culture visuelle, disons, classique. Ce qui veut dire que sont privilégiés des modelés au détriment des modèles instaurés, des modèles prédéterminés, donnés d'avance. Ça veut dire aussi qu'une invention créative se fonde, se renouvelle sur une plasticité elle-même reconsidérée, ce que convoquent ces deux termes de modèle et de modelé qui, autour du plasticos, servent à définir ce que peut être l'art plastique. Je renvoie au livre de Château sur le sujet. D'entrée de jeu, on pourrait dire, à partir de cette incitation, que l'on passe d'une culture visuelle à une autre forme de culture, peut-être une culture des matériaux, où tout se redéfinit. La couleur, la lumière, le mouvement, le temps, le son, tout ce qui constitue des matériaux qui sont à l'œuvre. À l'œuvre notamment dans des pratiques, disons, plasticiennes, des arts visuels et du cinéma d'animation. Sur la question des traits, les traits se rapportent à une catégorie. La sémiotique s'est emparée du sujet, bien entendu, c'est bien connu. La catégorie des textures. On est là du point de vue du signe plastique, mais là encore, nous rencontrons la question du matériau poétique. Et on peut parler, suivant les cas, mais aussi suivant des niveaux de lecture, d'images textures ou d'images texturées. Et on cheminerait de la sorte vers la notion de matière de l'image. On sait bien que Jacques Aumont et peut-être François Dagonier, davantage encore, ont travaillé sur cette question. C'est une question très importante. Dans tous les cas, les images sont travaillées par un cinéaste plasticien et saisies par un spectateur au travers de sa tactilité ou de sa tactilomotricité. Saisies par un spectateur, voyez comme nous sommes attentifs par rapport à ce qui se déroule sous nos yeux à l'écran. Un spectateur lui-même, si j'emprunte l'expression au nom d'artiste Robert Smithson, à la fin des années 60, sur lesquels on devrait revenir, à l'esprit d'argile, c'est-à-dire, comme disait Smithson, lui-même plasticien. C'est dans cette posture hein, que nous découvrons tout ce qui apparaît sous nos yeux. Avec le trait, la texture, la pensée de la forme, ça c'est important. Les présupposés de la Gestalt, ça ne tient plus. On l'a vu dans les exemples que vous avez présentés tout à l'heure. Du point de vue du spectateur, c'est une distance critique qui est stimulée. Les plans cinématographiques, ce sont des plans de contact. Et rien n'existe vraiment en dehors de ces plans de contact. J'inscris le propos dans cette approche très plasticienne du cinéma, susceptible de définir une nouvelle catégorie. En ce sens, les espaces ne renvoient qu'à eux-mêmes, à ce monde créé de toutes pièces, un monde qui prend son identité dans les mouvements même du dessin. On sait qu'autour de ce registre plastique se définissent de nouvelles catégories d'images. On peut rappeler par exemple le propos de Gilles Deleuze, qui fait du tactile le constituant, je le cite, d'une image sensorielle pure, d'une situation optique et sonore, hein, dit-il d'ailleurs, pure, qui nous met au contact, alors, à travers ses propres catégories. Tout cela est discutable, d'ailleurs, d'une image perception, une image perception qui assure le renversement de l'image mouvement en une image temps. Le temps, dit-il, ce n'est plus la mesure du mouvement, mais le mouvement devient la perspective du temps. Alors, cette expression de Damisch, le trait étant moins tracé que traîné, invite donc à porter attention au tactile. Le trait, de la trace à la traîne, inscrit ce que Tarkovsky appelait la pression du temps dans l'image et dans le flux des images. Le trait tracé, alors je vous montre quelques vues, mais je ne vais pas les commenter, ça serait trop long, sauf exception. Le trait tracé, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait essayer de dresser de nouvelles catégories autour de ça ? Des catégories qui se fondent sur des conduites créatrices. Je reviens à ces instances poétiques-là, ou à des schèmes de conception, des schèmes opératoires. Bien, on a peut-être deux catégories d'entrée de jeu. Soit le trait se coordonne à une ligne d'épure, à une assise géométrique, premièrement, ou, deuxièmement, le trait est assorti à un mouvement d'esquisse, à une impulsion physique. C'est comme si on passait de l'univers des mathématiques à celui de la physique. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui se joue aujourd'hui, notamment en architecture, en design. Un trait dans cette deuxième proposition qui, à ce moment-là, devient trace. La matérialité du trait et sa valeur expressive s'abstrait derrière la ligne savante du trait d'épure, derrière le modèle. Alors que la matérialité du trait, le registre très expressif, on le voit ici avec quelques images extraites de Behlens, Rachel Brandbaker, se révèle dans des, on ne sait pas comment le nommer, des délinéaments de circonstances, d'occasions, des choses comme ça, du trait d'esquisse, des modelés finalement. Le trait traîné, c'est un trait de mémoire, un trait qui prend son temps, un trait qui fait retour et qui se reprend, en même temps qu'il fait surface. Il y a le jeu entre la résurgence et l'émergence. L'émergence ne peut pas exister sans cette résurgence. C'est peut-être tout ça qui fait la surface, une surface devenue espace plastique. C'est aussi un trait qui se prolonge. Dans ce sens, le trait traîné entraîne. Il exhibe les épreuves physiques avec la surface, les marques du fugitif et de l'instable. Avec le trait traîné, il ne reste du trait que la traîne et devient une trace mouvement. Le trait traîné restitue les ressorts poétiques qui sont articulés autour de ces deux pôles, alors de la mise en mouvement, c'est-à-dire de l'énergie, et de la mise en forme, c'est-à-dire de la construction. Le trait traîné, non plus tracé, hein, donc traîné, demeure ainsi attaché aux marques du chantier. On fait retour sur le chantier, avec toutes ses entrées, aussi bien spatiales que temporelles. Un élément graphique, un espace plastique en développement, de proche en proche. De proche en proche, c'est plus dans le sens d'une démarche inductive, hein, où c'est par ces entrées locales que l'espace se construit, et non plus une démarche déductive qui ferait que d'une entité déjà prédéterminée, globale, on déduirait des lieux de couleur notamment. Non, tout cela est une affaire d'invention qui tient à ce qui dure, à la notion de durée, et non pas du temps spatialisé, je renvoie Bergson bien sûr, et aux expressions de ce mouvement et du mouvant. Au niveau de la synthèse cinématographique, au niveau de ce qui prend forme à l'écran, du trait tracé au trait traîné, se manifestent des brouillages du plan. On a parlé de la fenêtre tout à l'heure. Des coupures irrationnelles, dirait Deleuze. Le tout pour constituer un espace singulier, un espace autonome, encore une fois, qui ne renvoie qu'à lui-même. Qui s'exprime dans une seule coulée. On l'a bien vu dans le film de Tschwitzkebel. D'un seul moment qui dure en travaillant différentes formes de temps. C'est l'un des propos forts de Tschwitzkebel. Du temps linéaire, cyclique, etc. Mais en les travaillant toujours de l'intérieur. De l'intérieur. Parce que le cinéma d'animation, avec ses ressorts plastiques, témoigne d'une forme d'intériorité. Ce sont des mondes intérieurs que nous livrent les films d'animation plasticiens. Norstein, Kendrick, Leaf, Toccafondo, Miai. Qui restent attachés à des marques de fabrique, à des cadres et des terrains d'expérience, à des espaces, des dispositifs cadres qui sont souvent eux-mêmes contaminés par les textures, par, je dirais même, des milieux de textures, et avec ce travail autour des milieux de textures, essayer de construire une autre culture du milieu, peut-être même. Qui fait que on passe de la vitre, par exemple, poussiéreuse de l'atelier de Norstein, il insiste souvent là-dessus, aux constructions scénographiques qui sont elles-mêmes rendues à la plasticité. D'une boîte noire, que devient la boîte noire? Elle est livrée à toutes sortes d'opacités, jusqu'à la matérialité des plans supports et des surfaces. Le calque, on a parlé du calque tout à l'heure, le calque est lui-même brouillé, et c'est par les altérations, une poétique de l'altération, que l'on parvient à la notion d'image, d'une image singulière, attachée à ces régimes d'altération, justement. En voilà quelques exemples. À grands traits. Hein. Le petit hérisson dans le brouillard, qui nous rejoue les notes de l'aveugle de Diderot, peut-être, hein, au passage. On repère des expressions de ces dichotomies entre trait d'épure et trait d'esquisse, entre trait tracé et trait traîné dans de très grands domaines artistiques, dans les arts visuels et dans le cinéma d'animation au XXe siècle. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des éléments, des dénominateurs communs, des motifs, des schèmes, des éléments clés qui nous permettraient de rationaliser tout cela ? Eh bien, quelques singularités peuvent se reconnaître, Deleuze a travaillé aussi là-dessus, dans des déclinaisons autour de motifs plastiques, avec notamment le motif du pli, qui est très souvent convoqué par des artistes et par des théoriciens des arts visuels. On peut opposer, par exemple, la ligne ondulée de Kandinsky et la ligne d'inflexion, pour reprendre un terme de Paul Klee. Une ligne de Kandinsky qui est régulée au moyen de paramètres formels, on retrouve la forme, la géométrie, qui se coordonne au système géométrique du plan, alors que la ligne de Paul Klee relève d'une dynamique gestuelle, ça commence par là, qui donne à s'épanouir des pleins et des déliés qui ne se rapportent à aucun plan de référence à caractère géométrique. Alors, Deleuze a travaillé dans l'image-temps sur ces questions-là, en essayant de distinguer un âge géométrique et un âge ciselant, et en donnant des exemples, comme ce qu'on peut voir en dessous. La notion de géométrie mobile est une notion qui a été introduite par Fernand Léger, hein, dont on trouve trace dans les écrits de Fernand Léger. Le cinéma d'animation, dans ses chantiers d'expérience plastique, intègre cette dichotomie entre épure et esquisse ou entre trace et traîne. Il l'intègre C'est-à-dire, il en fait une problématique. Il ne s'agit pas d'opposer pour opposer. Ce ne sont pas des régimes d'opposition, ce sont plutôt des régimes de polarité. C'est entre ces polarités que les choses se font. C'est là que se trouve la problématique. À ce moment-là, on n'est plus dans la dichotomie et on touche à un régime plus dialectique, dont je vous montre quelques exemples avec. Alors, je voulais vous le présenter, puis c'était un peu compliqué parce que je l'ai sur support VHS. Bon, sans commentaire. Voilà. Mais vous avez mon Fuji extraordinaire, mais absolument extraordinaire, bouleversant, que vous pouvez voir dans l'exposition. Surtout à partir de la fenêtre d'un train, enfin, quand même. Donc, dans ces réalisations-là, ici, c'en est un très bel exemple, ces catégories constituent les deux pôles d'un espace de tension dialectique. Le cinéaste, il passe successivement de l'un à l'autre, ou trouble l'un par l'autre, au point d'introduire peut-être un troisième terme, de fixer de nouveaux paradigmes, allons-y, l'hétérogénéité, la discontinuité. On peut retrouver ça chez Bill Plimpton, qui force le trait de son côté, avec une marque graphique très forte, qui fait grésiller l'espace plastique de l'image d'une certaine manière et qui devient par là même un trait de caractère. Un trait qui, sous sa valeur expressive, fait de ces personnages, en bout de course, des caricatures, vous connaissez ça, des figures qui répondent ici encore à une logique interne propre au dessin. Et si on revient sur Robert Breer, alors attendez, je reviens en arrière. Je cite Robert Breer. Pour moi, le cinéma est une forme d'expression fondée sur un arbitraire, à savoir qu'il doit reproduire l'illusion du mouvement naturel. Alors, il faut briser cet arbitraire et s'attaquer aux matériaux de base, détruire le cinéma, pour ainsi dire, afin de découvrir ce qu'il peut encore nous donner. Alors, il essaye notamment de bousculer la notion de continuité et de proposer une nouvelle notion qu'il appelle l'anticontinuité. Nous en avons des exemples dans son travail. Vous en avez des exemples ici à l'exposition. Et ici, c'est très rapporté au chantier où les outils eux-mêmes sont interrogés. La fatigue de l'outil traceur qui se fait parfois sentir, associé à un épuisement du geste qui se répète, d'une répétition presque stérile. Puis le geste se reprend et le trait gagne en vivacité avant de s'interrompre à nouveau. Bon, on n'en voit que des images malheureusement, effectivement, et s'il manque quand même l'essentiel. Cette dialectique entre l'épure et l'esquisse, entre la ligne de trait, le jeu des lignes savantes, comme, allons-y, Alberti, le jeu des lignes savantes, et puis ces témoins ou témoignages des ressorts plus physiques, hein, de la traîne, caractérisent un cinéma à transformation, un cinéma qui problématise le processus de changement d'état. Elle introduit cette dialectique des dynamiques très fortes. Ne le pensons pas comme des oppositions. Hein. Construction, déconstruction, je dirais même déconstruction, construction. Il faut déconstruire pour construire. Déformer pour former, pour mettre en forme. Avec, évidemment, un processus narratif qui se fonde, qui est intimement lié à ces dynamiques-là. Un processus narratif qui, de fait, est intimement lié au scénario poétique. On le voit ici. Dans le film que vous avez vu, Retouche, l'avant-dernier film de Georges Tschiskebel, hein, roman étant son dernier, 2008. Il faut 2 ans hein, pour faire un film comme ça. Se manifestent des tensions entre traits d'épure et traits d'esquisse. C'est d'ailleurs l'une des constantes de son travail. Vous avez été attentif à ce flux des images en mouvement qui se développe autour de ces tensions entre les systèmes de lignes géométriques, de trames, de dispositifs cadres, et puis tout ce qui est lié à ces marques d'esquisse, des traits traînés grésillants de l'autre, et les éléments en représentation, avec beaucoup de malice qui caractérise le travail de Tschiskebel, les éléments en représentation accompagnent ces dialectiques. Vous avez remarqué les balais d'essuie-glaces, les lignes de marche d'escalier, les tracés des courts de tennis sont là pour des actions plastiques. Essuyer, marcher, courir. Pour embrayer et relancer le mouvement, pour opérer sur un plan plastique une altération des signes d'épure et pour maintenir les figures en situation d'esquisse de retouche permanente, d'où le titre, retouche. Je ne vais pas développer, mais vous connaissez le travail de Gianluigi Toccafondo dans la Piccola Russia, par exemple, 2003. On trouve ça de manière exacerbée autour des figures qui se modèlent et se transforment sans cesse, dans le sens d'une anamorphose continue, jusqu'au point limite de dissolution, de disparition, au point que, dans de très nombreux plans, il ne subsiste plus des corps en représentation, en formation, en déformation continue dans le flux des images, que quelques vestiges, des vestiges qui donnent le tournis, un peu de vertige dans l'affaire, qui ramènent les corps à l'état de traîne, à l'état de sillage. À l'état de sillage, la notion de sillage est introduite par Calder dans ses mobiles. Elle est reprise ici d'une certaine manière, je ne développe pas. Un vêtement ample, des membres disproportionnés, des chevelures abondantes, des ombres qui finissent par absorber le paysage. De l'ensemble, finalement, se dégage une fluidité. Un des traits caractéristiques de Toccafondo, c'est la question de la couleur, et ici celle du blanc. Du blanc, alors là encore, on peut se dire, peut-on rationaliser ? Oui, alors si, là encore, on peut reprendre quelques termes de Deleuze, mais pour en faire une lecture critique, si vous m'autorisez à cela, il n'est pas là pour répondre, c'est embêtant, mais bon. Autour de sa fameuse dichotomie entre le caractère réflexif et le caractère intensif qui peuvent caractériser les images. Et je propose, alors Deleuze a une formule qui est le blanc sur blanc pour caractériser justement le régime réflexif. Associé, vous voyez, ce sont des exemples des images extraites du petit hérisson dans le brouillard de Yuri Nordstein, avec le cheval blanc, vous voyez, et sur le caractère réflexif se porte la notion de trait de contour, des choses comme ça. Alors que le caractère intensif est plus organisé autour d'un régime de clair-obscur, d'un travail de matérialité de l'image. Et je propose, en contrepoint du blanc sur blanc, peut-être cette formule, blanc de blanc. Un blanc fait de blanc, de matière blanche, de substance blanche. Peut-être au passage qui voudrait dire que la page blanche, ça n'existe pas. Le trait tracé, le trait d'épure, ou trait sur trait, on pourrait dire, concerne le blanc sur blanc, alors que le trait traîné rejoint le blanc de blanc. Et les motifs plastiques de la Piccola Russia, de Toccafondo, peuvent alors être identifiés. Un trait et un blanc, lumière, mouvement réflexif, je vous remontre ici. Un trait et un blanc, couleur, mouvement intensif. Vous voyez, donc on peut aussi le distinguer autour d'une question couleur. En voici quelques exemples à travers quelques photogrammes extraits de trois films de Yuri Nordstein. Je voudrais aborder rapidement une question de fond sur les conduites créatrices. Quelles sont les poétiques du trait traîné ? Le trait étant moins tracé que traîné, invite à identifier et incite à explorer différentes poétiques du trait. C'est toute la question du dessin qui est posée ici. Dans une distinction entre trait tracé et trait traîné, lorsque le trait traîné redouble l'abandon au dessin IN, l'abandon au dessin IN du trait d'esquisse, d'un abandon au dessin EIN. Je crois que c'est très important. Abandon au dessin IN et abandon au dessin EIN. L'expression abandon au dessin est utilisée par le graphiste, illustrateur, réalisateur de films d'animation, Stefano Ricci, pour caractériser le rejet des conventions attachées aux voies classiques de construction de la représentation, à ces fameuses codifications plastiques sur lesquelles vous êtes revenu au niveau de la hiérarchisation des espaces et sur les plans aussi des relations entre dessin et couleur. C'est une injonction. Une injonction qui ouvre le jeu vers cette création d'espaces plastiques autonomes, vers des développements de surface. Là, c'est une illustration. Ça a ce statut-là. C'est revendiqué comme tel par Stefano Ricci. Plus fondamentalement encore, cette incitation redéfinit la conduite créatrice, la démarche de création, la conduite de projet. La notion même de projet est revisitée dans le sens où l'expérience prend le pas sur le programme. Et dans le cinéma d'animation, dans des films centrés sur des expériences de texture graphique, pratique du trait, de couleur, il y a cette question très tendue entre expérience et programme. Le storyboard, par exemple, règle un dispositif général, définit une trame de fond qui fait office d'invitation à cheminer et surtout d'incitation à faire. Du trait tracé en trait d'esquisse au trait traîné ne se programme qu'un tout premier terme. Il répond au mot d'ordre que prononçait André Masson à propos des dessins automatiques dans les années 20, vous savez, à l'origine, le mouvement. C'est tout. Alors Nordstein insiste là-dessus, il se refuse à établir des storyboards trop rigides. Florence Mialle, à qui j'ai posé la question, répond, et qui travaille sur la couleur, mes storyboards sont strictement en noir et blanc. De façon à différer le plein exercice de la couleur au moment de la création des images en animation directe, sur le banc de titre, sous caméra. Schwitzkoebel arrête les choix couleurs dans certaines de ses créations au moment même de la réalisation des images. Et la liste est longue. On peut aller jusqu'à Stan Brakhage, si vous voulez. Tout cela, et je vous montre encore un autre exemple de quelqu'un que j'aime énormément, Vincent Fortan, extrait de son livre « Par les sillons », et qui problématise cette question autour de l'image-mouvement. Il est en train de réaliser d'ailleurs quelque chose à Toulouse en ce moment. Tout cela participe d'une poétique qu'on pourrait appeler, alors je ne sais pas trop comment, poétique de l'incertain, poétique du chaos, poétique de l'altération. Quand je dis poétique de l'incertain, je pense au livre de Menger sur le travail créateur, bien sûr, hein, quand il dit se mouvoir un horizon incertain. C'est-à-dire susceptible d'intégrer ce qui survient sous le crayon et sous la main. Ce qui nous préoccupe. Des conduites qui sont des conduites à l'aveugle. Stan Brakhage a beaucoup écrit là-dessus. Hein. Je vous renvoie à son livre Métaphore et Vision. Des conduites à l'aveugle, c'est-à-dire des voies poétiques reconsidérées en phase avec des expériences aventureuses au plus près des démarches de création, de telle sorte que l'artiste adopte une posture d'aveugle. C'est comme ça qu'on peut construire à partir de ces postures-là, donc des déconstructions que ces postures sont susceptibles d'introduire. Au point même que le spectateur lui-même se trouve dans une situation, dans les films de Brakhage, un peu particulière. Les expériences du point de vue du spectateur deviennent des expériences singulières. Il faut être inquiété un petit peu de la sorte et rejoindre nous-mêmes une pensée de l'aveugle. Tout oublier pour tout redécouvrir finalement. Une pensée de l'aveugle qui est elle-même instauratrice d'une approche singulière. Il y a des textes là-dessus. Je fais référence par exemple à Francine Markowitz, dans une publication des presses de la Sorbonne, qui dit ceci, l'aveugle nous introduit à une logique du singulier. Recherchons cette logique du singulier. Voilà une voie peut-être d'accès au film et au cinéma. Le spectateur des espaces en mouvement se retrouve dans la situation de l'aveugle de la lettre de Diderot. Sensible, si je reprends quelques termes de Diderot, c'est pour nous stimuler à la moindre vicissitude, aux variations et aux changements, à tout ce qui se découvre et à tout ce qui se ressent dans la durée et dans le temps. Donc la conduite à l'aveugle, l'abandon au dessin, rejoignent ici des poétiques, des manières de faire, de l'incertain, du chaos, de l'altération. Pensons à ce que disait Henri Michaux dans « Émergence, résurgence ». Je laisse courir jusqu'à force d'errer, sans se fixer dans cet espace réduit. Un emmêlement, ce qu'on voit alors, un dessin comme désireux de rentrer en lui-même. La ligne cherche sans savoir ce qu'elle cherche. Je passe sur le détail. On peut y revenir, si vous voulez, dans un entretien autour de ces différentes poétiques. Je me suis un peu perdu le fil sur le PowerPoint. C'est pas grave. Je vais conclure. Le trait traîné s'abandonne à lui-même et fait retour sur lui-même, sur ce qui le motive. Il concentre le motif et le moteur. Le signe graphique et le ressort plastique. Dans ce sens, il se rapporte au motus dans toute son étymologie, hein, de mouvement et de mise en mouvement. Le trait traîné réunit l'inflexion du trait et l'impulsion du geste. Autrement dit, en insistant sur l'abandon au dessin yen, le trait d'inflexion est le geste impulsif. Vous voyez, c'est la main dessinée par Schwitzkebel dans Retouche qui se reforme en répétant le même geste, en rejouant la geste, pour dire finalement que c'est le trait qui reprend la main, tourné vers son propre mouvement. Il s'agit, comme le déclarait encore une fois André Masson, alors André Masson, c'est dans son livre « Le plaisir de peindre », hein, aux éditions La Diane française en 1950, je crois. Il s'agit de peindre des forces, pas des formes, hein, il s'agit de peindre des forces. Le trait traîné est un trait d'énergie pure. Il est mouvement. Et c'est à partir de ces termes plastiques que ce qui figure prend forme. Et surtout prend force. Et que l'on pourra attacher à chaque fiction quelque chose qui frictionne sur la surface. Et définir pour chaque figure un trait de caractère qui tient résolument une fois pour toutes du trait d'invention. Voilà, j'en ai fini. Et pour finir, quelques mots de Paul Valéry que j'aime bien, voilà, qui me berce un peu, j'espère que ça va vous bercer aussi, mais qui sont très forts, très forts. Le cœur dur, l'œil distrait des beautés que je bats, laissant autour de moi mûrir des cercles d'ondes, je veux à large coup rompre l'illustre monde de feuilles et de feux que je chante tout bas. Peut-être s'agit-il de réenchanter de la sorte. En tous les cas, vous voyez en bas trois images extraites de La jeune fille et les nuages de Georges Schwitzkebel, qui montrent comment, d'un coup de chiffon sur la vitre, sur la fameuse fenêtre ouverte sur le monde, on déstabilise le damier perspectif, toute ligne savante, pour fixer de nouveaux termes, ces fameux nouveaux traits d'invention.